Et sans transition, bienvenue dans le MAG du 18-20. Ça ne fait plus aucun doute, il y a bel et bien un lien entre chlordécone et cancer de la prostate. Un récent rapport paru en juin dernier en fait état. La contamination des sols est connue de tous. Alors, quelle habitude alimentaire adopter pour être épargné par la contamination? Les comportements ont-ils évolué? D'ailleurs, faut-il avoir peur? Éric Lefebvre et ses invités.
Quatre invités pour faire le point effectivement sur cette pollution par le chlordécone que nous subissons depuis donc plusieurs années maintenant. Dans ce studio, Philippe Verdol, maître de conférences en économie à l'UAG, spécialisé sur ce dossier chlordécone. Nicolas Diaz, secrétaire général du comité régional des pêches. Éric Godard, chargé de mission interrégionale chlordécone au GREP, le groupe régional d'études des pollutions par les produits phytosanitaires. Il sera avec nous par téléphone dans un instant. Également au téléphone, Pascal Blanchet, chef du service urologie au CHU. Bonsoir Pascal Blanchet. Merci d'être avec nous. Pascal Blanchet, Christophe Cuby le rappelait à l'instant, ce rapport qui date donc d'il y a quelques mois, du mois de juin, un rapport qui semble à nouveau valider en quelque sorte l'hypothèse d'un rapport entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Vous qui suivez et qui êtes en première ligne en quelque sorte, chef du service urologie du CHU, vous partagez cette analyse ?
Puisque Luc Multinier et moi-même, Luc Multinier est un chercheur à l'INSERM, nous sommes les co-auteurs de cette étude. Ce n'est pas un rapport, c'est une étude scientifique qui a été publiée dans une revue internationale et qui a donc été soumise à expertise scientifique internationale pour qu'il a validé. C'est la première étude qui recherche l'impact sanitaire du chlordécone dans un événement qui est très fréquent en Guadeloupe, le cancer le plus fréquent, le cancer de la prostate. Et cette étude, qui a eu pour but d'évaluer le risque que courent les gens face à l'exposition au chlordécone, qui est un perturbateur hormonal, et le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant, notre étude, je le répète, publiée dans une grande revue internationale, suggère très fortement un lien entre l'exposition au chlordécone et le survenu du cancer de la prostate. Donc le chlordécone de présumé innocent est devenu, on est dans largement la présomption de culpabilité.
La présomption de culpabilité et la mise en examen. Pascal Blanchet, quelle pourrait être à présent la prochaine étape sur le terrain scientifique en quelque sorte? Est-ce que les résultats de cette étude que vous avez donc conduite vont par exemple permettre de modifier les protocoles de traitement, je ne sais pas ou...
Rien pour l'instant ne permet de penser que les cancers de prostate qui sont directement liés au chlordécone, car tous les cancers de la prostate de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont pas dus au chlordécone. Le chlordécone est un facteur de risque supplémentaire. Nous ne savons pas s'ils ont un profil d'évolution qui est différent. Et donc, a priori, ils doivent être soignés de la même façon que les autres. Il s'agit surtout pour nous de dépister individuellement ou par un dépistage organisé, de dépister précocement les cancers dans une population très exposée pour laquelle on vient de trouver un facteur de risque supplémentaire.
Pascal Blanchet, encore une question. On se souvient, il y a trois ans maintenant, je crois, du premier rapport et des premières déclarations faites par des médecins, tout comme vous, sur ce lien entre chlordécone et cancer de la prostate et de la levée de bouclier qui s'en était suivie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que dans la communauté scientifique, il y a un consensus aujourd'hui avec votre étude on accepte, ou en tout cas cette hypothèse et sa confirmation sont acceptées par l'ensemble de la communauté scientifique, ce lien établi entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Est-ce que depuis le rapport du professeur Belpomme en particulier, est-ce que les choses ont véritablement changé au sein de la communauté scientifique même?
Alors, mon très médiatique confrère Dominique Belpomme avait fait des annonces médiatiques en parlant de désastre sanitaire aux Antilles. Il avait annoncé une explosion de cancer, il avait annoncé une explosion de cancer de prostate, de cancer du sein, de malformations chez les enfants, d'hypofertilité chez les couples. Ceci n'est pas une réalité. Il s'agissait quand même d'un effet de manche qui peut avoir peut-être eu l'avantage de sensibiliser, mais en aucun cas il s'agissait d'une étude scientifique. Cette étude scientifique, nous l'avions commencée avant les déclarations de Dominique Bellepomme, en 2003-2004, mais c'est long une étude scientifique, avant de pouvoir exploiter des résultats, les écrire, les soumettre à nos pairs pour la validation. Et donc aujourd'hui, oui, c'est le premier élément qui donne un lien entre cette molécule et une maladie fréquente dans nos régions. Alors dire que ça approuve la preuve causale, c'est encore un petit peu fort. On pourrait imaginer que nous ayons besoin encore du renfort d'autres études qui aillent dans le même sens que nous. Mais cette étude suggère quand même très très fortement le lien entre cancer de la prostate et exposition au chlordécone, et surtout dans certaines catégories, les gens qui ont un taux de chlordécone dans le sang supérieur à une certaine valeur, on appelle nous 1 microgramme par litre de sang, et surtout les gens qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou les gens qui ont fait une migration temporaire dans un autre pays, où ils ont pu développer d'autres facteurs de risque qu'ils ont ramenés ensuite dans leur région d'origine.
Merci beaucoup Pascal Blanchet d'avoir été en direct avec nous dans ce 18-20. Pascal Blanchet, chef du service urologie du CHU. Avant de retrouver dans un instant Nicolas Diaz, secrétaire général du comité régional des pêches, et Philippe Verdol, universitaire, nous avons également en ligne Éric Godard, chargé de mission interrégionale chlordécone au GREP, le groupe régional d'études des pollutions par les produits phytosanitaires. Merci Éric Godard d'être vous aussi avec nous. Bonsoir.
Oui.
Vous avez entendu sans doute ce que disait Pascal Blanchet, pas une découverte pour vous, puisque cette étude date donc du mois de juin. Où en est-on des travaux menés par le GREP? Vous aussi, vous menez des études, groupe régional d'études, donc vous en menez forcément. Où en êtes-vous dans la connaissance et, je dirais, l'appréhension non seulement des dégâts, mais des menaces également représentées et causées par le chlordécone?
Oui, je précise que le GREP, c'est un groupe régional pour l'étude des pollutions par les produits phytosanitaires qui est en Guadeloupe. Il y a son équivalent en Martinique qui s'appelle le GREFI. Donc moi, je travaille avec les deux institutions, hein, sur la Guadeloupe et la Martinique. Et le GREP travaille sur la question depuis très longtemps, puisque la découverte du problème, je rappelle, date de 99, la fin 99 en Guadeloupe, la mi-99 en Martinique, quand on a mis en évidence la présence de chlordécone dans certaines eaux de consommation. Donc très vite, il y a eu des traitements mis en place, hein, après un arrêt temporaire des captages en Guadeloupe au mois de mars-avril 2000, et les eaux de distribution sont devenues quasiment indemnes de chlordécone. C'est seulement quand les filtres à charbon sont à saturation que très vite, on s'en aperçoit par les analyses qui sont faites fréquemment, que des traces de chlordécone peuvent être distribuées. Donc du côté de l'eau potable, d'alimentation d'eau potable, le problème est réglé depuis maintenant bien longtemps sur la Guadeloupe et également sur la Martinique. En ce qui concerne les autres risques qui sont essentiellement d'ordre alimentaire, puisque s'il y a eu un temps des expositions professionnelles par ceux qui épandaient le chlordécone essentiellement dans les bananeraies, la population générale, elle a été exposée un temps par voie alimentaire, hein, faut le reconnaître, tant que des mesures n'ont pas été prises, et ces mesures ont été prises à partir de 2003-2004, quand il a été mis en évidence le transfert possible dans certains légumes, notamment les légumes racines, qui poussaient sur des sols chlordécones. Donc là, il y a eu un gros travail de fait avec les agriculteurs pour éliminer tout risque et éviter de cultiver ces plantes les plus sensibles sur les terres qui contenaient de la chlordécone. Progressivement, donc, on a mieux connu le comportement des plantes vis-à-vis de cette pollution, le comportement aussi des différents sols, puisque les sols ne restituent pas leur chlordécone de la même manière. Hein. Il y a des sols qui ont une beaucoup plus forte capacité de rétention et où des plantes peuvent être cultivées sans risque, alors que sur d'autres types de sols avec la même concentration en chlordécone, la même plante pourra contenir quelques traces de chlordécone. Donc progressivement, il y a des listes de cultures possibles ou à éviter sur les sols et les types de sols et en fonction du niveau de chlordécone qui ont été mises en à la connaissance du monde agricole. Et tout ça est maintenant assez bien rodé. Et cette connaissance ne fait que s'enrichir à mesure que travaillent le CIRAD et l'INRA sur la question.
Et puis, dernière étape, c'est les produits de la mer.
Alors, sur les produits de la mer, vous avez avec vous Nicolas Diaz qui va sûrement pouvoir en parler
tout à fait.
Très en détail. Il y a eu également un travail de fait sur le milieu marin, puisque bien sûr, les eaux douces d'abord et puis le milieu marin sont le réceptacle du lessivage des sols, puisque actuellement, la seule façon dont les sols se dépolluent, c'est une manière, je dirais, naturelle, par l'entraînement, par les précipitations, par les pluies, donc, qui, essentiellement par infiltration, arrivent à entraîner le chlordécone petit à petit, sachant que cette pollution va être à subir pendant très très longtemps, tant qu'on n'aura pas trouvé de solution pour l'éliminer. Hein. Donc, sur le milieu marin, c'est plus récemment que des enquêtes sur la contamination au milieu marin ont été faites. C'est à partir essentiellement de 2008, puisqu'il y avait eu quelques prémices en Martinique en 2002. Ensuite, c'est en 2008 que, grâce au plan chlordécone, qu'on a vraiment pu renforcer la connaissance. Et on s'est aperçu qu'effectivement, dans la zone du sud Basse-Terre, qui connaît la culture de banane, qui a connu et qui connaît toujours la culture de banane, mais qui a connu ses usages de chlordécone un temps, on a dans la bande côtière, dans la bande très côtière, des contaminations de certaines espèces de poissons, essentiellement les espèces détritivores et carnivores. Et on s'est aperçu que les herbivores, elles, par leur régime alimentaire, étaient à l'abri de cette contamination. Que les poissons du large étaient également à l'abri, puisque bien sûr, à la fois leur mode de vie et leur localisation fait qu'ils ne
se
contaminent pas par tous les apports qui viennent des cours d'eau. Donc c'est très progressif, c'est effectivement une connaissance qu'on acquiert progressivement. Et à chaque fois qu'on acquiert de la connaissance, on agit dans le but de réduire l'exposition, puisque depuis très longtemps, on affirme, et Didier Houssin, le directeur général de la santé, quand il était venu, n'avait pas peur de l'affirmer, les risques pour la santé étaient possibles. Bon, Pascal Blanchet vient de dire qu'effectivement, ce lien avec
est mis en évidence.
Le chlordécone et cancer de la prostate est maintenant établi statistiquement par cette étude. On ne pouvait pas écarter ce risque. Et à ce titre, tout a été fait depuis des années pour réduire l'exposition alimentaire.
Merci. Merci, Eric Godard. Merci à vous aussi pour ces précisions. Chargé de mission chlordécone au groupe régional d'études des pollutions par les produits phytosanitaires. Philippe Verdol, on entendait à l'instant Eric Godard qui nous dit en gros, effectivement, dès le début, on était un petit peu inquiet des conséquences sanitaires du chlordécone. Mais enfin, grosso modo, on a pris les mesures qu'il fallait, avec entre autres le plan chlordécone, et puis un certain nombre de mesures de prévention et de précaution. On fait à peu près ce qu'il faut. Est-ce que vous partagez cette analyse relativement, je dirais, optimiste, hein, on va le dire comme ça, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes de plus en plus inquiet devant l'enchaînement, en quelque sorte, de révélations scientifiques sur les risques que fait peser cette pollution au chlordécone. On l'a vu avec le professeur Blanchet, sur le rapport entre chlordécone et cancer de la prostate, établi maintenant. On va en parler dans un instant avec Nicolas Diaz, et la pollution non seulement des sols, non seulement des rivières, mais également de la mer, la bande côtière, et donc des produits de la mer. Votre sentiment, Philippe Verdol?
Oui, donc Eric Godard est coordonnateur interministériel du plan chlordécone. Et donc, conformément à sa mission, il explique que tout est sous contrôle. C'est un peu ce qu'il annonce. En cette année-ci, je crois qu'il y a eu un tournant dans la gestion de la crise, dans la crise du chlordécone, notamment avec les différentes publications qui ont eu lieu au mois de juin. Alors, au mois de juin, il y a trois dates à retenir, c'est le 17 juin, le 21 juin, le 23 juin, et puis une nouvelle publication qui a eu lieu au mois d'août suite à l'article qui a été fait par le journal Le Monde. Alors, le 17 juin, tout d'abord, on a eu la publication sur le site de l'Institut national de veille sanitaire rapport du comité scientifique du plan chlordécone. Alors, ce que j'en ai retenu, j'allais dire en page 35, c'est que jusqu'à l'an 2000, la prévalence du cancer de la prostate en Guadeloupe était relativement limitée. En Guadeloupe et en Martinique, on était plutôt dans des zones faibles, dans des occurrences faibles du cancer de la prostate. entre 2000 et 2003, le nombre de cancers de la prostate en Guadeloupe a augmenté de 70%. Non, c'est pas rien, il a augmenté de 70%. Alors, ce sont les deux éléments que j'ai retenus de ce rapport-là, qui avait été écrit en octobre 2009 et rendu public le 17 juin 2010. Ensuite, on a eu le 21 juin la conférence de presse du docteur Multinier et des docteurs Multinier et Blanchet, qui indiquaient que, étant exposé au chlordécone, en moyenne après 30-40 ans, on a un risque de développer le cancer de la prostate majoré de 80%. Chiffre officiel majoré de 80%. Bon, donc on a, il me semble, quelques soucis à se faire. Et par ailleurs, il y a eu le 23, l'arrêté pêche, qui concerne mon collègue principalement. Et l'arrêté pêche, d'après moi, il signifie, concernant ce secteur-là, mais de manière plus générale aussi, que désormais, on rentre dans une sorte de tri sélectif dans notre alimentation. Il faut faire attention à la commune dans laquelle les poissons ont été pêchés, à la distance au rivage, il faut faire attention aux espèces concernées, bon, etc. Sachant que les poissons sont nomades, ils vont et ils viennent. Alors comment faire? Bon, ça c'est encore une autre histoire. La traçabilité, elle n'est pas évidente. Alors,
voir avec le ministère de l'immigration, peut-être pour...
Peut-être. Et puis, le 24 août, donc, il y a eu cet article qui était intéressant du Monde et qui donnait des extraits de deux rapports, des rapports de Mathieu Fins et de Pierre-Benoît Joly, qui sont tous deux sociologues. Dans des organismes publics, donc l'INRA notamment. Ils ont fait des recherches au titre de l'action 39 du plan chlordécone. Et là aussi, on avait des travaux qui étaient prêts depuis plusieurs mois, en attente de validation, notamment par les préfectures de Guadeloupe-Martinique. Finalement, suite à l'article du Monde, deux jours plus tard, ils ont été mis sur le site de l'Observatoire des résidus de pesticides, oui, parce qu'il y a une rubrique chlordécone. Alors, ces articles, eux, ils indiquent que depuis le début, on est dans des procédures qui sont anormales, des choses qui ont été court-circuitées, que l'État a été informé, notamment de la toxicité de la molécule, et qu'on a quand même laissé faire. Donc, ça veut dire qu'on accrédite cette fois-ci, les chercheurs permettent d'accréditer la thèse du complot. On parlait de complot. Alors, s'agit-il d'un génocide délibéré? S'agit-il de l'action de lobby en vue de faire du profit, quitte à sacrifier des gens? Bon, là aussi, les chercheurs nous donnent l'occasion de revenir sur ces questions. Je signale que la contribution qui a été faite par le docteur Multinier et le docteur Blanchet apporte le fondement scientifique à des actions en justice. On sait maintenant que si on a plus d'un microgramme de chlordécone dans son sang, on risque effectivement de développer particulièrement un cancer de la prostate. Donc ça c'est la preuve scientifique qu'il fallait pour ester en justice. Ils l'ont porté.
On va revenir d'ailleurs un instant sur... On va faire le point avec vous sur le dossier judiciaire. Je voulais juste retrouver un instant Pascal Blanchet, donc chef du service urologie du CHU et auteur, co-auteur de cette étude qu'on évoquait. Juste un mot, c'est aux médecins et aux praticiens que je m'adresse, docteur Blanchet. Pour rappeler que si la probabilité augmente avec la consommation de chlordécone, pour autant le cancer de la prostate n'est pas forcément une fatalité, qu'en tout cas on peut le traiter et qu'on peut surtout le dépister.
Voilà. Le cancer de la prostate est un des cancers qui se dépiste le mieux et le plus simplement, puisque deux choses se combinent pour le dépister. Faire vérifier sa prostate en la faisant examiner, il vaut... commencer entre 40 et 45 ans, plutôt à 40 ans s'il y a des antécédents familiaux nombreux dans la famille. Et puis deuxièmement, il existe un marqueur sanguin qui est un vrai dépisteur du cancer de la prostate, puisque son élévation dans le sang permet de soupçonner l'existence d'un cancer de la prostate et donc d'aller vers des examens plus précis pour en apporter la preuve, pour réfuter cette hypothèse.
D'accord.
Donc, on a des moyens de dépistage. L'offre de soins en Guadeloupe, au point de vue surveillance de la prostate, est suffisamment développée pour que les hommes puissent y avoir un accès facile. Et puis, il existe des thérapeutiques qui permettent de détruire et de guérir le cancer de la prostate lorsqu'il est traité au stade localisé, c'est-à-dire à ses débuts.
Donc, plus vite on dépiste, comme les autres cancers et comme la plupart des maladies, hein, c'est un peu une lapalissade, mais enfin, plus tôt on dépiste, plus tôt on a une chance de pouvoir traiter et guérir ce cancer de la prostate. Merci, Pascal Blanchet. Merci d'avoir été avec nous à nouveau quelques minutes. Avant de revenir dans un instant avec vous, Philippe Berdol, sur l'aspect judiciaire hein, de ce dossier, Nicolas Diaz, secrétaire général du comité régional des pêches. Alors, vous êtes, vous et les pêcheurs, pas le comité régional, mais les pêcheurs de Guadeloupe et singulièrement ceux du Sud-Bas. Mais vous allez nous le dire sûrement, la mauvaise image risque de toucher également l'ensemble des professionnels de ce secteur. Vous êtes en quelque sorte les dernières victimes. On a parlé bien sûr des consommateurs que nous sommes, on a parlé des agriculteurs eux-mêmes qui voient leurs terres polluées, des ouvriers des plantations de bananes qui ont été les premiers et sans doute les plus exposés au chlordécone. Les pêcheurs sont en quelque sorte les dernières victimes.
Effectivement, hein, c'est... Alors, tout d'abord, bonsoir à tous, hein, à tous les auditeurs. Effectivement, les pêcheurs sont les dernières victimes, et le mot est bien approprié. Hein. Comment ces choses se sont passées ? Alors, c'est plus récent pour la pêche, en fait. Hein. Ça tient à l'abaissement des normes résiduelles, donc des fameuses LMR, qui sont intervenues en juin 2008. Hein. Précédemment, le peu d'informations qu'on avait montrait que les produits de la mer, finalement, étaient... largement inférieur aux normes de l'époque, donc il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Et puis cet arrêté ministériel du 30 juin 2008 abaisse la norme d'un facteur 10, avec le ministère décide d'avoir un principe de précaution sur les LMR, prétendant d'ailleurs que c'était une norme européenne qui venait de passer, en l'occurrence pour les produits de la mer, c'était pas vrai du tout. Hein. Donc on était bien dans le principe de précaution. Parallèlement, l'AFSA préconisait une norme à 50 microgrammes. Donc on voit qu'on est allé très très loin dans la précaution. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que finalement les produits de la mer se sont retrouvés au-dessus de cette nouvelle norme, partiellement au-dessus. Mais surtout, on plongeait le domaine maritime un petit peu dans l'incertitude totale parce qu'on n'avait pas d'études, on n'avait pas d'éléments sur lesquels s'appuyer. On n'avait pas d'idée de la contamination de l'époque. Donc, premier travail, il a fallu se dépêcher hein, d'avoir le maximum d'informations scientifiques sur l'état de la contamination en milieu marin. Et puis, évidemment, avec une grande angoisse, hein, évidemment, de tous les acteurs. J'imagine aussi des consommateurs, mais surtout des producteurs, parce qu'on ne savait pas où on allait. On ne savait pas où il y avait de la chlordécone en mer, combien, et vers quoi on allait en termes de mesures réglementaires.
Bon, alors, finalement, les études sont
menées. Alors, les études depuis 2008, M. Godard l'a bien dit tout à l'heure, progressivement, parce que c'est compliqué, ces protocoles scientifiques, c'est compliqué dans le milieu marin d'accéder aux échantillons, mais bon, progressivement, on accumule de la donnée, on va avoir plus d'un million, un millier d'échantillons pardon, depuis 2008 qui nous commence à nous donner une idée un peu plus précise de l'état de la contamination. Et fort heureusement, on s'aperçoit quand même que cette contamination des espèces commerciales est très inféodée, très localisée sur ce qu'on appelle le croissant bananier, c'est-à-dire au pied des cultures de bananes.
Donc localisé géographiquement, localisé aussi sur certaines espèces.
Et localisé sur certaines espèces, ça a été rappelé. Donc ça, c'était quand même la moins mauvaise nouvelle, parce qu'on craignait le pire. Et on continue les investigations parce qu'on n'a pas encore... on l'a dit, hein, c'est compliqué, le professeur Verdol l'a rappelé aussi. Le milieu marin, c'est pas statique. Les poissons vont, viennent, bougent, donc il faut appréhender ça de manière statistique. Enfin, donc méthodologiquement, c'est compliqué. Et puis surtout, le plan chlordécone qui était en vigueur depuis le début 2008 ne prévoyait pas du tout le compartiment marin. Donc on n'avait pas les moyens simplement de mener les investigations, les moyens qui sont donnés pour la compréhension, le traitement, l'information pour le chlordécone au niveau terrestre. Et d'ailleurs, cette carence demeure. Hein. On a trouvé des fonds de tiroir pour faire des premières études sur la stricte contamination des produits commerciaux. Mais concernant les mécanismes de ce transfert de la molécule en mer, de cette bioaccumulation, on n'a pas encore les études scientifiques. On n'a pas les moyens encore de communiquer correctement, comme c'est le cas à travers les programmes JAFA, etc. Donc depuis 2008, le secteur de la pêche en particulier revendique un volet maritime au plan chlordécone. On nous le promet pour l'extension ou la prorogation du plan chlordécone à compter de janvier 2011. Maintenant, quelques aspects. Je voudrais dire là, on s'appuie sur les dernières études scientifiques qui démontrent la corrélation avec le cancer de la prostate. Mais il est de bon sens pour tout le monde. Je veux dire que ces pesticides, c'est quelque chose de pas bon pour la santé. On le sait de façon aiguë, on le savait depuis l'accident d'Hockwell. C'est-à-dire que dans l'usine de production du chlordécone, il y a eu des accidents. C'est-à-dire qu'on intoxiquait gravement les gens. Donc on le sait, personne n'a envie non plus de prendre la bombe d'insecticide à moustique, de se la mettre au fond de la gorge. On sait que les insecticides, ce n'est pas bon pour la santé. Bon ben voilà, maintenant on en a une démonstration précisément sur le cancer de la prostate. La deuxième chose, il allait de soi aussi, et tout le monde pouvait l'anticiper, qu'ayant du chlordécone dans la terre, ayant du chlordécone dans les eaux de surface, ayant du chlordécone dans les nappes phréatiques, comment ne pourrait-il pas y en avoir en mer ? Ben évidemment, la mer, c'est le réceptacle final, on en a en mer. Et donc, on en a dans les produits de la mer. Donc voilà, ça, c'est des choses de bon sens. Maintenant, on en est là. Voilà, le chlordécone, on l'a là. Et il faut le gérer tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est le véritable problème. Il faut gérer les risques. Donc ça veut dire des mesures réglementaires pour pas plus d'exposition. Et puis surtout, il va falloir gérer les conséquences, donc les préjudices induits. Alors, sur la santé, sur le social et sur l'économique. Et là, on n'en est même pas au début.
Justement, Nicolas Dias, les mesures, elles ont été prises. Il y a un arrêté préfectoral qui date du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises.
Le mois de juin, oui, tout à fait.
Mois de juin, hein, qui réglemente donc ce qui peut être pêché et où, et ce qui peut être consommé, surtout. Trois mois après la mise en place et la mise en œuvre de cet arrêté, est-ce que vous ressentez, vous, un pêcheur professionnel de la mer, que ce soit ceux du sud Basse-Terre, puisque c'est donc la région, le croissant bananier, ou d'ailleurs, est-ce que vous ressentez une appréhension ? Est-ce que c'est plus difficile de vendre, tout simplement, vos poissons et donc de gagner votre vie ?
Bien entendu. Et en plus, je dirais, alors évidemment que ce préjudice-là, il n'est pas limité au seul secteur du sud Basse-Terre, parce que le consommateur va s'interroger sur toute la Guadeloupe, parce que cette médiatisation, elle a lieu sur toute la Guadeloupe. Donc les questions se posent. Ça montre aussi que... Pour le marin et les produits de la mer, on n'a pas encore mobilisé tous les moyens de communication nécessaires. On est encore beaucoup dans le questionnement, dans la rumeur, l'information, etc. Donc effectivement, il y a une certaine défiance des consommateurs à l'égard des produits. Les professionnels peuvent les rassurer maintenant. Hein. Je veux dire, les études qu'on a sont malgré tout rassurantes. On a un arrêté sur lequel s'appuyer, qui a été fait, bien évidemment, avec la première préoccupation de... préserver la santé du consommateur, et pour cause.
Philippe Berdol, sur l'aspect judiciaire, parce qu'on l'évoquait rapidement tout à l'heure, tout cela sous-tend aussi des actions en justice qui sont menées dans ce dossier.
Oui, en fait, je ne voudrais pas trop m'étendre sur l'aspect judiciaire. J'aurais préféré interpréter le constat qu'on a fait tout à l'heure.
Interpréter, Philippe
Merci
Berdol,
beaucoup.
Interpréter.
Alors, donc, on a vu toutes ces nouvelles révélations. Pourquoi ? Il me semble que dans le système qui était en place jusqu'à présent, l'État a accepté, pour donner des signes en quelque sorte de bonne volonté, l'État a accepté de mettre en place des protocoles relativement stricts. Donc, il fallait que les recherches soient publiées dans des revues à comité scientifique international, donc incontestable. À ce moment-là, les chercheurs français jouaient leur crédibilité littéralement. Et ils devaient donc soit suivre l'État de manière inconditionnelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ou alors et plonger scientifiquement, ou alors publier quelque chose qui tienne la route. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on a constaté que des gens de l'INSERM, etc., disait, ben, maintenant, il y a un problème. Alors que jusqu'à il y a quelques mois, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de publier les résultats dans ces revues-là, bon, ça a été une autre paire de manches. Alors, c'est ainsi que la publication médicale est intervenue sur l'étude Caroprostate. Mais c'est aussi de cette même manière-là que les sociologues se sont eux aussi positionnés. Et bon, alors ça, c'était un premier aspect que je voulais indiquer. L'autre aspect, c'est que on connaît encore quelques combats, j'allais dire, d'arrière-garde. Et tout à l'heure, donc mon voisin parlait des seuils qui ont été abaissés. Pour nous, c'est une victoire, hein, pour les consommateurs, pour les écologistes, etc. C'est une victoire. Bon, quand on se penche sur le rapport des sociologues Fins et Joly, on apprend qu'aux États-Unis, ce qui est passé depuis la fin des années 70, c'est le zéro chlordécone. C'est-à-dire que si du chlordécone était détecté, l'aliment à l'importation était refusé. D'accord ? Bon, le seuil de détection, c'est 10 microgrammes. En Europe, on a retenu désormais pour le chlordécone un maximum de 10 microgrammes avec une sorte de dérogation pour les DOM, en quelque sorte, c'est-à-dire pour les produits tropicaux, qui montent jusqu'à 20 microgrammes.
Par kilo de matière.
Oui, c'est ça. Et les pêcheurs, ils demandent la norme AFSA, 50, ça leur convient. Donc, qu'on monte encore à 50. Alors, en fait, on est dans la même problématique, un certain mot, qui est encore un petit peu sous-jacente, avec les agriculteurs, qui disent qu'ils ont besoin de vendre. Alors, contaminés ou pas contaminés, ils ont besoin de vendre. Mais il faut quand même penser qu'on a des gens en face de nous, qu'on n'est pas simplement des estomacs qui sont destinés à manger. Il faut arrêter de déconner, c'est ça que je dis.
Alors, Philippe Verdun, vous êtes maître de conférence et non pas professeur, comme Nicolas Diaz vous a gratifié tout à l'heure, maître de conférence économie à l'université. Ce sera intéressant, Philippe Verdun, et on vous invitera pour cela. Mmh. Ce sera intéressant de revenir et de s'intéresser plus spécifiquement à l'intérêt, à l'impact, en quelque sorte, économique de cette crise chlordécone, avec effectivement les difficultés des agriculteurs, les difficultés des pêcheurs et peut-être des modes de consommation qui vont être largement modifiés, quoique au jour d'aujourd'hui, l'importation, y compris en matière alimentaire, soit largement majoritaire et dominante, hélas. Merci en tout cas, Philippe Verdol, d'être venu nous éclairer de ses interprétations et analyses.
Je peux avoir 15 secondes de conclusion, s'il vous plaît. 15 secondes, on est à 2 minutes, il te reste un petit morceau. Alors, donc, je voulais interpeller les médecins libéraux, qu'est-ce qu'ils font face à la population devant cette montée-là ? Les assureurs, le système de santé, mais aussi le système éducatif, qu'est-ce qu'ils font ? Et puis, il y a une autre composante de la population qui reste particulièrement silencieuse, ce qui est dommage.